Allez, toujours en direct de Clairefontaine avec Didier Deschamps et Guy Stéphane qui nous reçoivent après la qualification pour l'équipe de France pour l'Euro 2020. Justement, cet Euro 2020, Nicolas Georgerot, on ne sait pas où on va aller. Il y a tellement de pays,
oui,
tellement de groupes.
Non plus.
Là, on commence nous à réviser déjà maintenant parce que...
Ça ne sert à rien.
Hein, Didier, il va falloir...
Il faut prendre un tube d'aspirine, autrement vous n'allez pas vous en sortir. Et encore, à la fin du mois, ça sera...
Ça ne vous emballe pas, cette formule 12 villes,
non,
12 pays?
Non, ce n'est pas emballé. Il faudra qu'on s'adapte. C'est le maître mot quand on est entraîneur ou sélectionneur. Parce que bon, il y aura un tirage évidemment fin novembre auquel on assistera,
Bucarest,
mais ça peut être modifié en mars puisque les quatre derniers qualifiés on les connaîtra en mars, donc avec des critères géographiques c'est pas simple.
Ça complique la préparation effectivement, peut-être avec un adversaire qui peut changer dans les dernières semaines, les derniers mois. Tout à l'heure vous avez évoqué il y aura 2-3 matchs de préparation, vous avez déjà quelques idées?
Je sais pas encore, ça dépend quand commencera le premier match. On se calera par rapport à la prépa, la fin des championnats, ils ne sont pas tous finis à la même période. Il peut y avoir des joueurs qui sont concernés par la Ligue des Champions, la finale, qui est très tard, comme à chaque fois. Donc on va jongler un petit peu pour évidemment faire la meilleure préparation possible.
Bah c'est une première parce que c'est une nouvelle formule. Avant, c'était soit dans un pays, soit éventuellement dans deux pays. Et là, ça sera dans 12 pays différents, dans 12 villes différentes. Donc évidemment que ça va demander beaucoup plus de déplacements, ça va demander beaucoup plus d'intendance, ça va demander beaucoup plus de réflexion pour les camps de base. Et surtout que le tirage a lieu le 30 novembre, mais il est possible qu'il y ait des changements au mois de mars en fonction des équipes. Les quatre dernières équipes qui seront qualifiées. Donc c'est un peu compliqué.
Vous attendez évidemment ce tirage, ça ne sert à rien de... Enfin, on ne peut pas se fixer auparavant, mais il y a une réflexion sur évidemment camp de base Clairefontaine ou bien à l'étranger. Les deux options sont encore ouvertes?
Oui, sincèrement oui, mais bon, dans un premier temps, ça me paraît compliqué parce qu'il faut prévoir, c'est anticipé. Je ne sais pas si je vais vous donner une info, mais c'est valable pour toutes les sélections. On doit déjà se positionner, les équipes nationales, par rapport à la Coupe du Monde au Qatar. Mettre des options par rapport, bon, même si là-bas il y a...
Plus resserré,
oui. Oui, oui, mais c'est déjà, donc camp de base, c'est pas en janvier, on y va, c'est bien. Donc je pense sincèrement que l'option la plus rationnelle aujourd'hui, mais j'ai pas tous les éléments, c'est de garder Clairefontaine dans un premier temps. On étudiera après les déplacements plus ou moins longs. C'est sûr que si on va jouer à Bilbao ou à Bakou, on mettra un peu plus de temps pour y aller à Bakou en déplacement et revenir.
Mais il y aurait un souhait, Guy Stéphane, d'être à Clairefontaine quelque part en plus. Bah voilà, c'est chez vous, c'est votre château, vous avez vos habitudes. Il y a un côté aussi pratique.
C'est vrai qu'on a nos repères, on connaît les terrains, on connaît l'hébergement, la nourriture, il y a beaucoup d'avantages. Donc si on peut rester à Clairefontaine, oui, c'est un plus. Maintenant, ça dépendra dans quel pays on va jouer, dans quelle ville on va jouer et encore... quelques incertitudes.
Bakou, toute petite précision, si la France est dans le chapeau 1 et l'Italie aussi, peut-être qu'on pourra éviter ce groupe, puisque c'est Rome et Bakou dans le même groupe, donc l'Italie jouera quoi qu'il arrive à Rome, donc dans le groupe de Bakou. Voilà, après,
l'idéal, c'est terminer premier.
Et... on arrête là, sinon l'aspirine, on vide le tout de suite.
Et de gagner même en Albanie, d'ailleurs.
C'est bon, on a pris l'aspirine, on va se concentrer.
On va mettre la poche de glace.
Il y a un chiffre bien rond qui est plus simple à retenir, c'est le chiffre 100.
Ouais, j'aime bien.
Avec cette centième présence sur le banc. En tant que sélectionneur, vous aviez été le premier joueur à atteindre le cap des 100 sélections. Là, vous êtes le premier sélectionneur de l'équipe de France. Vous rentrez dans l'histoire, ça fait quelque chose?
Oh, c'est pas par rapport à l'histoire, je disais en rigolant, mais en le pensant quand même, lorsque j'ai eu le bonheur, durant la Coupe du Monde, de battre le record de Raymond Domenech, qui était à 79, c'était ma 80e contre l'Argentine. Je me rappelle avoir dit devant le staff et les joueurs, avec le maillot que m'avait remis Guy avec 80 dessus, j'ai dit j'aime bien les nombres à trois chiffres. Donc 100, ça a une valeur symbolique. Je me sentais très responsable le fait d'être de joueur, et c'est mon mérite en tant que sélectionneur. Évidemment que j'ai le mérite aussi avec mon staff, mais c'est grâce aux joueurs. Avoir cette longévité en tant que sélectionneur de nos jours, il faut des résultats. Donc je pense que nous les avons eus, mais oui, c'est une fierté personnelle. Bon, je ne vais pas me regarder un peu plus dans le miroir ou quoi que ce soit, mais d'avoir fait le double-double, 100 et 100 dans ma première vie en tant que joueur et en tant que sélectionneur.
Les 100 buts, ça va être compliqué hein, pour le triple-double. On s'en tiendra au double-double.
Si je compte ce que j'ai mis à l'entraînement, peut-être j'y arriverai encore.
Et vous, Guy, vous l'avez déjà passé depuis un moment, ce chiffre des 100. Vous êtes largement devant Didier, il faut le dire aussi. Hein.
Bah, oui. J'avais pris un peu d'avance dans les années 2000. Oui. Ouais. Non, tout à l'heure, on parlait de chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3. Là, je dirais chapeau. Tout court, tout court. Parce que c'est exceptionnel, réussir à faire ce qu'il a fait en tant que joueur et réussir à faire ce qu'il a fait en tant que sélectionneur, c'est pas fréquent. D'autant plus que ça aurait pu s'arrêter. Ça aurait pu s'arrêter en novembre 2013. Ah bon, parce qu'il y a eu le match aller contre l'Ukraine et le match retour, quatre jours après. Voilà, ça fait partie aussi des tournants qu'il peut y avoir dans une vie professionnelle. Là, c'était un tournant. Il y en a eu d'autres.
C'est fort ce que vous dites. Ça veut dire que vous auriez pu tirer de responsabilité.
On connaît le milieu.
Des fois, il faut être réaliste aussi. Hein. Je sais pas, je me prends pas pour un Nantes.
On vous l'avait dit ou pas?
Non, mais bon.
Non, non, mais.
Je vais pas prendre des images guerrières, mais je pense que j'étais bien ciblé. Quoi.
Vous connaissant, vous auriez tiré votre révérence.
Hein?
Vous connaissant, vous auriez tiré votre révérence.
Sincèrement, je ne me suis pas posé la question. Mais,
il savait qu'il allait renverser.
Oui, voilà, il y a ça aussi.
Mais on aurait pu une autre vie, mais elle aurait été bien aussi. Hein.
Ça aurait pu s'arrêter, ça peut aussi continuer.
Oui, bien
est-ce
sûr.
Que la,
le plus longtemps possible.
La qualification. Oui. Acté maintenant pour cette Euro 2020, vous met dans la position de souhaiter continuer et d'avoir la prolongation de contrat.
Je ne souhaite pas, après c'est des discussions avec mon président, il y a suffisamment
faut
de confiance. Oui, mais c'est pas moi le souhait, après évidemment que...
Faut qu'il soit partagé.
Oui, ça c'est sûr, mais la décision finale elle revient à mon président, donc on va aller dans l'ordre des choses, on se verra, voilà, donc... À partir du moment où c'est toujours un bonheur, un privilège d'être là à la tête de l'équipe de France, ça passera par des résultats aussi. Ce qui a été bien, et j'ai connu des périodes différentes, c'est que, parce qu'il y a les contrats qui s'arrêtent de sélectionneur systématiquement après une grande compétition. Mais quand vous partez sur une grande compétition en sachant que ce n'est pas forcément le même sélectionneur qui sera là après, dans le management des joueurs, c'est plus compliqué, même si ceux-là, ils ont l'habitude un peu, puisque ça fait depuis 2012. Quoi. Donc,
Benjamin Pavard va nous rejoindre dans quelques minutes. Justement, sans sélection, vous avez vu aussi des générations différentes, Guy peut-être encore plus. Ouais.
Je l'ai vu, lui.
Voilà, déjà.
Déjà, il m'a eu comme joueur.
Ces générations, justement, ça fait partie aussi intégrante d'un staff d'une équipe nationale. Ça évolue. Vous disiez tout à l'heure,
comme
voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus les téléphones, les choses comme
ça. Comme chez vous.
Comme chez nous, exactement. Quelle perception vous avez de ça, ce changement des générations que vous avez connues, que vous allez peut-être encore connaître après?
Il faut s'adapter. Après, nous, on prend le bon côté de tout. La nouvelle génération, elle n'a pas que des côtés négatifs, mais elle est différente. C'est une génération connectée, avec des centres d'intérêt différents. Voilà, après, ça n'empêche pas que même dans les joueurs, il peut y avoir deux générations. Ceux qui ont 30 ans n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt que ceux qui ont 20 ans. C'est un équilibre à avoir, mais...
Factuellement, Guy, par exemple, quand il faut s'adresser à ces joueurs dans le vestiaire, les prises de parole, ça démarre comme ça. Il y a une vraie différence dans la façon de s'adresser aux joueurs par rapport à il y a 10, 15 ans.
Oui, on ne s'adresse pas de la même façon à Hugo Lloris et à Kylian Mbappé. Mais je trouve qu'il y a deux différences. Chez les moins jeunes, je les trouve très matures. Hein, les joueurs qui ont dans l'équipe aujourd'hui une trentaine d'années, voire un petit peu plus. Et chez les plus jeunes, c'est une génération qui ose beaucoup, qui a peur de rien, qui s'expatrie beaucoup, ce qui n'était pas le cas lorsque Didier était jeune. Didier est parti à la Juventus de Turin à 25 ans.
Ça vous a peur de quitter la France quand vous étiez
avant
Non, bon, mais aujourd'hui, les jeunes joueurs, ils partent à 18, 19, 20 ans.
Bon,
c'est une différence fondamentale.
C'était différent parce qu'avant, il y avait trois étrangers qui pouvaient jouer. Maintenant... Les portes sont ouvertes. Non, mais ils ont ce mérite-là. Ils veulent tout de suite. Ils font tout pour l'avoir, comme chez vous. Hein. Il y en a un demain, vous allez le prendre en stage à RTL et dire « mais je vais te prendre ta place ». Ah, il se prend pour qui, lui? Non, mais il pense, il va tout faire pour le faire. Bon, j'espère pour vous que ça n'arrivera pas, mais c'est comme
c'est
ça.
C'est la remise en question.
Ouais.
Il paraît que les causeries sont plus courtes parce que le temps d'attention est moins long qu'avant.
De tout temps. De tout j'ai temps. Été joueur parce que voilà, j'en ai eu des causeries, des fois longues, des fois très longues. Il y a une autonomie, Benjamin vous le confirmera peut-être après. Si vous passez allez, les 15 minutes, après si c'est parler pour parler, voilà. Et puis bon, ils ont des causeries tous les deux jours pratiquement. Alors en avoir, même si je fais peut-être des choses différentes, il faut se renouveler aussi, pas dire toujours les mêmes choses, mais... Voilà, elle est à l'essentiel.
Il est là, Benjamin Pavard, avec nous. Salut, Benjamin. Merci de nous rejoindre également. C'est vrai que les causeries, c'est, quand on est joueur, c'est pas toujours le truc qu'on préfère. Hein.
Non, on écoute, mais après... enfin, moi, j'écoute, en tout cas.
C'est mais, la bonne réponse.
Mais est-ce qu'il l'entend? Parce qu'il y a
alors,
écouté...
Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Didier Deschamps, hier, avant
ça ne plaît pas. Écoutez, on écoute la musique.
Attention à ce que tu vas dire, Benjamin.
La causerie, c'est mieux.
Tu as dit quoi, hier, à la causerie? On va voir si Benjamin...
Non, ça... Hors de question.
Mais c'est vrai qu'avant le match, souvent, on est déjà connecté, on a envie de rentrer directement sur le terrain, donc on écoute le coach, mais c'est vrai que si ça dure 15 minutes, on va peut-être écouter que 2-3 minutes.
Voilà.
Donc,
Merci.
Ah, donc il en reste 12-13, ouais. Tu n'entends rien, quoi.
Non, parce que le coach, il parle 5-10 minutes, donc ça va, c'est pas trop long. Donc c'est vrai que maintenant, on va dire, nous, les jeunes... Voilà, quand c'est un peu long, voilà, c'est comme les vidéos. Parfois, j'ai connu des vidéos de 1 heure, donc il y a certains qui s'endormaient. C'était un peu compliqué, mais...
Vous zappez.
Comment ?
Vous zappez.
Zappez. Ouais, on zappait, ouais.
Zappé.
Pas moi, pas autre chose. Moi, ça va, je dormais pas.
Ouais.
Mais certains, ouais, dormaient parce que c'était un peu trop long.
On ne demandera pas les noms, hein, mais...
Non.
C'est pas en équipe de France.
Non, non, non. Mais c'est la réalité, voilà. Il faut s'adapter aussi pour être le plus efficace. Mais déjà, bon, je suis plus âgé que Benjamin, bien évidemment, on n'aimait pas ça non plus. Et moi aussi, j'ai connu des fois, veille de match, des vidéos, 45 minutes, 1 heure, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous perdez, il n'y a pas d'écoute. Il faut savoir que l'autonomie, avoir conscience de l'autonomie en face et faire le plus court possible, le plus précis possible. C'est un travail, ça se prépare.
Eh bien, en tout cas, les auditeurs d'RTL vous écoutent et vous écoutent jusqu'au bout. Merci beaucoup, Didier Deschamps. Guy Stéphane va rester avec nous quelques minutes avec Benjamin Pavard pour poursuivre cette spéciale à Clairefontaine après la qualification de l'Euro 2020. Merci beaucoup, Didier.
Merci à vous.
À très bientôt.
Oui.
On a encore plein de questions à vous poser, mais on se reverra.
Ouais, ouais.
On aura un gâteau, il y aura un maillot, une bougie là, pour la centième.
Je ne me pose pas la question.
Une
bougie.
Mais pour mettre le numéro 100, c'est un maillot XL, mais il est tellement fin, Didier, que maintenant il met du S presque. Donc,
Ça va aller, je vais porter les trois chiffres dans mon.
Il y aura une surprise.
Il y aura une surprise. Mais bon, on est attendu là-bas, hein, parce qu'il y a l'inauguration du stade, Albanie, avec la ferveur qu'ils ont.
C'est pas un jubilé, quoi.
Non, ça va secouer.
Attention, Didier n'aime pas les surprises, il a dit tout à l'heure. Mais bon,
les bonnes, oui.
Merci Didier, en tout cas, d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve avec Benjamin Pavard et Guy Stéphane.